BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Stéphane Rosès, encore une fois, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes prof à Sciences Po HEC, président de CAP. Ce que je voudrais voir avec vous sur le coronavirus, je vous demande pas, vous n'êtes pas ministre de la Santé, donc ça c'est clair, ni ministre du Transport. Mais en revanche, ça peut avoir un impact sur le moral des Français. Bon, il y a des élections, bien sûr, mais le moral des Français, la consommation, impact sur la croissance. Comment est-ce que ça se gère, une telle épidémie? On se souvient de Roselyne Bachelot, qui avait commandé des milliers de vaccins contre le SRAS, qui finalement n'ont pas servi. Donc tout le monde continue à s'en moquer un tout petit peu. Aujourd'hui, on voit que pour le coup, plutôt sous-estimé.
Oui, en tout cas, on peut s'interroger. Vous avez raison, je ne suis pas un spécialiste, mais quand on voit les réactions de nos amis étrangers, notamment en Europe, il peut y avoir un petit hiatus. Or, normalement, en France, quand il y a un risque de crise sanitaire, industrielle, spontanément, on regarde le politique. C'est aux politiques d'anticiper, de prévenir, de gérer, de réparer. Or là, on n'a pas le sentiment que les autorités politiques surjouent, voire même on s'inquiète. Non, ouais. On pourrait se dire, est-ce qu'ils ne mésestiment pas? Alors, il est vrai que le pays est dans une dépression, mais de nature politique. Toutes les énergies gouvernementales, politiques, sont focalisées sur, notamment, mais pas seulement, la réforme des retraites, on en parlera, mais après une séquence du pays où, véritablement, tout était politique, ramené aux politiques. Alors, on va le voir avec Olivier Véran s'il a annoncé des mesures, mais on a le sentiment quand même que les autorités sont un peu en retrait. Vous avez échangé, là, je crois, avec Jean-Michel Blanquer.
Mais du transport, parce qu'hier, il y a une réunion, voilà. Il y a une réunion hier soir à Matignon, hein, justement. Mais Jean-Michel Blanquer, ça, c'était hier, pour le coup, dans le cadre du BFM politique. Je lui posais la question pour les écoles, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Il me dit, bah, il y a quelque chose de prévu, mais d'une manière générale, si vous laissez un plan.
Oui.
Il n'y a pas de prise de conscience.
Oui, comme s'il y avait une mésestimation. Pourtant, dans un pays où, spontanément, on est très réactif, vous l'avez dit tout à l'heure, aussi Bachot, au moment du SRAS, avait été presque accusé d'en faire trop. Pourquoi? Parce que, normalement, les autorités politiques savent que si quelque chose dysfonctionne, ce sont eux, pour l'opinion, les responsables.
Le retour, le regard vers le politique. Justement, bah, ça fait le lien avec le 49-3, parce que, donc, on voit bien que la nasse est en train, ou le piège, j'utilise souvent cette formule, est en train de se refermer. Sans doute sur le gouvernement, en tous les cas, sur Emmanuel Macron, qui a mis un calendrier extrêmement serré. Et puis, il y a cette pluie d'amendements avec la France insoumise, qui essaye justement de les pousser à ça. Mais en même temps, c'est un 49-3 un petit peu dévoyé par rapport à la Constitution, non, Stéphane Rosès? Je parle sous votre contrôle, bien sûr.
Disons que traditionnellement, le 49-3 est utilisé pour être sûr que l'on va bien discipliner une majorité qui pourrait être récalcitrante ou que on en arrive aux fondamentaux de nature politique, puisque si le 49-3 n'est pas adapté...
C'est pour la loi Macron, on s'en souvient, sous François Hollande, on a fait Manuel Valls.
Bien sûr. Là, ce n'est pas le cas, vous avez raison. Hein. Au fond, il y a d'un côté le gouvernement qui veut aller rapidement sur le débat parlementaire, alors que il y a une très longue période de concertation, ou plutôt d'information des partenaires sociaux, puis un mouvement social très long, une opinion toujours aux deux tiers hostile à la réforme, le gouvernement veut aller vite. Oui. Et l'opposition, du coup, elle, et c'est dit comme ça par beaucoup d'entre eux, notamment la gauche de la gauche, veut continuer au Parlement les mobilisations qu'il y a dans le pays, mais qui se sont érodées, parce que ça coûte cher, au fond, les journées de grève. Et donc, la démonstration que veut faire l'opposition, c'est obliger le gouvernement à recourir au 49-3. D'accord. Le gouvernement a compris le piège et chacun se renvoie la balle.
Absolument, pour l'instant, et tout le monde temporise, enfin, entre guillemets, par rapport au 49-3, ça, on a bien compris le message. Moi, j'ai une question, parce que, bon, évidemment, on en parle souvent, c'est est-ce que Emmanuel Macron a raison, je sais que de temps en temps, vous avez des contacts avec lui, mais est-ce qu'il a raison d'avoir un calendrier aussi serré sur un texte aussi fondamental? Parce que, en disant, à la limite, après, on aura le temps de... Évidemment, elle est loin d'être parfaite, le moins qu'on puisse dire, hein, cette réforme des retraites, mais on aura le droit de plus que d'affiner, de revoir presque le texte, puisque c'est dans très longtemps.
C'est troublant. En temps normal, ça paraîtrait un peu baroque parce qu'on croyait au départ que le débat aurait lieu après les municipales. Donc il y a les municipales qui arrivent, donc le calendrier est bizarrement choisi, comme si au fond, il se disait « si je tarde trop », ça va peut-être pas passer ou ce sera trop compliqué, et donc ça donne le sentiment de vouloir passer en force pour enfin donner une légitimité.
Mais vous qui êtes politologue, Stéphane, est-ce que vous pensez qu'il a raison, parce que de toute manière il faut qu'il passe à un acte 2 de son quinquennat, parce qu'il y a l'élection présidentielle, donc à la limite il se débarrasse de société retraite?
Écoutez, je pense que le risque pour lui, et de ce point de vue-là, il n'aurait pas raison, c'est qu'il crée dans le pays une telle rancœur sur la façon de faire la réforme, nonobstant le contenu qui, évidemment, joue centralement, c'est que en fait, il paie ça au moment de la présidentielle. Et on le voit dans des indicateurs d'opinion qui ne sont pas bons. Il se contente de constater que pour l'heure, il n'a ni opposition syndicale soudée, ni alternative politique crédible. Il a seulement Marine Le Pen qui attend tapis pour la présidentielle, et on a le sentiment qu'il se dit qu'au fond il pourrait y aller en force. Je redoute le prix à payer politique de son propre point de vue lors de la présidentielle.
Et alors de l'autre côté, donc on a bien compris, vous lui dites c'est dommage d'aller si vite, enfin vous pensez qu'il va le payer. En même temps, est-ce que s'il laisse traîner les débats, s'il prend le temps du débat, est-ce que c'est pas aussi tout autant dangereux pour lui? Parce qu'on voit bien que ça balance quoi entre les deux solutions.
Je pense que dans ce balancement, il se dit autant aller vite le plus tôt possible et passer en force, parce que de toute façon, du débat parlementaire, on comprend qu'il ne voudra pas vraiment faire bouger les lignes. Le vrai critère sur le fait de savoir s'il avait voulu faire bouger les lignes en amont était l'attitude, par exemple, à l'égard des syndicats réformistes dès le départ, la CFDT. Mais on comprend bien que la CFDT, maintenant, fait un peu recul en arrière par rapport à ce qu'avait été ces signes de vouloir trouver des compromis. Alors, seule petite bonne nouvelle, mais toute symbolique, c'est que, figurez-vous, au Parlement a été adopté, et ce sera intégré dans le projet, de façon consensuelle, l'idée que le niveau de vie des futurs retraités devait être digne. Oui. Alors, c'est justement là le type d'avancée réelle, mais symbolique, dont chacun pourra faire ensuite le bon usage. La majorité pourra dire, vous voyez, on essayait de trouver des compromis. Et puis, l'opposition de gauche, dans une tradition jaurésienne, se dit, on pourra peut-être s'appuyer sur cette notion pour montrer ensuite les contradictions entre cette idée de revenu digne et ce que sera la réalité de l'évolution de la retraite par points.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même les avancées sociales, parce qu'il y a des vraies avancées sociales dans cette réforme des retraites, hein, vous l'avez souligné, il y a aussi ce qu'on appelle la retraite à l'italienne, c'est-à-dire qu'on prendra en compte les différents régimes de manière le plus optimale possible. Enfin, je fais un petit raccourci. Mais personne ne le note.
Non.
L'opinion ne mesure pas ces avancées.
Comme si le concept par point, au fond, amenait une idée d'individualisation, non pas d'universalisme des différents corps de métier, mais au fond, une idée d'individualisation des futures retraites, en outre remise plus tard au bon vouloir du politique jouissant aujourd'hui d'une telle, je dirais, défiance de la part de l'opinion publique. On avait le sentiment qu'il y avait un système qui pouvait avoir ces problèmes d'injustice relative, et que là, tout d'un coup, on ouvre une boîte de Pandore et on n'est plus assuré d'absolument rien, tant les fondamentaux de ce que serait la nouvelle retraite ne sont pas perçus de façon sécurisante.
Dernier sondage là, qui montre que quand même plus de 2% pour le président Macron, donc on est à un tiers des Français, 32% à peu près, tient à peu près la route. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour rebondir pour l'acte 2 du quinquennat? On sent qu'il faut qu'il soit plus vert, plus écolo. Stopper les réformes. Quel est, tiens, donnez-nous l'indicateur aujourd'hui, le baromètre des réformes.
Je pense que la question essentielle est toujours dire aux Français quelle est la France qui est en train de se construire pour dans les 10 ans. C'est-à-dire, est-ce que les réformes menées sont comme ce que deviennent les autres gouvernants dans les autres pays, les Français, le modèle français d'abord, ou est-ce que c'est une adaptation à contre-temps de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc il y a à la fois des éléments de politique objective d'ici la future présidentielle, mais après la réforme des retraites, on peut tout à fait avoir effectivement, comme vous le sous-entendez, un moment de pause où il pourra dire à tout le monde, avec la réforme des retraites, j'ai quand même fait du lourd, et c'est du lourd tant la symbolique des retraites dans le modèle.
Et arrêter les réformes.
Et ensuite, je dirais aller dans le qualitatif. Oui. Hein, ensuite, regarder le qualitatif des questions environnementales, des questions de qualité de vie, des questions d'amélioration dans tout un tas de secteurs qui quand même connaissent des difficultés, l'hôpital, l'école, la santé.
Est-ce que c'est important le résultat des municipales pour la majorité ?
C'est important symboliquement, mais comme je fais partie de ceux qui, dès le départ, ont pensé que les municipales n'avaient rien à voir avec la dimension nationale, parce que la crise de l'État-nation...
Oui, mais c'est pas le cas depuis de nombreuses élections municipales.
Oui, et c'est un élément qui est un élément encore croissant. Jamais la dimension locale n'a été aussi importante. Mais comme nous, commentateurs et les politiques eux-mêmes, donnent un sens national à autant de votes locaux, de facto, le soir même du premier et du second tour des municipales, on va donner un sens national alors que les électeurs, eux, donnent un sens très local à ces élections quand on voit les motivations de vote ville par ville.
Est-ce que les deux grands axes ou le important pour vous, pour l'acte 2, ça va être quoi ? L'écologie, comme ça l'est pour les municipales, comme ça l'est pour tout maintenant.
Je pense que ça va être, en tout cas, ça va être une pluralité autour des questions de santé, d'immigration, dont on voit bien que c'est un problème pour tous les pays européens. Sur les questions de laïcité, le président, toujours dans un domaine régalien, a fait des annonces mi-chèvre, mi-chou, qui ne sont pas, au fond, d'une très grande ambition.
Sur le séparatisme.
Mais, voilà. Mais on va revenir aux fondamentaux de ce qui fait une société, le régalien, le quotidien, une perspective d'avenir, parce que derrière toutes les questions techniques, objectives dont nous parlons, il y a d'abord une dépression de nature morale et politique.
Une dernière question, il y aura certainement un remaniement après les municipales ? On voit déjà les positions des uns des autres. Vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, le président sera sans doute très attentif au fait, symboliquement, de ne pas laisser d'espace politiquement entre lui et Marine Le Pen, d'où des politiques qui sont des politiques quand même au plan, je dirais, social, très marqué par ce que René Raymond appelait la droite orléaniste. Au fond, on est passé du néo-bonapartisme de l'élection d'Emmanuel Macron à une politique de la droite orléaniste plus proche des fondamentaux de la droite.
Et ça, c'est votre grande théorie. Merci beaucoup, Stéphane Rosen. Stéphane Rosen, juste prof à Sciences Po HEC, puis justement président de CAP. Dans un instant, on changera complètement de sujet. Elle fait partie du gouvernement, c'est Sophie Cluzel. Elle porte tout ce qui concerne les handicapés. Elle va nous vendre, entre guillemets, le duodet. Vous allez voir, c'est dans une entreprise, c'est d'avoir un salarié, un ou une handicapée, et essayer de. Ça débouche sur un emploi. En tous les cas, l'apprentissage de cette vie professionnelle. À tout de suite.
BFM Business, l'heure H, l'invité.
Notre invité, c'est Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État en charge des handicapés. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes là parce que justement, il y a le duodet. Vous êtes déjà venu nous voir l'année dernière. Duodet, donc, c'est une entreprise, un salarié qui s'engage avec un ou une handicapée. On va en parler dans un instant. Peut-être deux questions d'actualité. Il y a d'abord ce coup de tonnerre avec une des grandes figures sociales et du catholicisme, Jean Vanier, qui est mort il y a quelques mois maintenant. Visiblement, il y a une enquête fondateur de l'Arche. L'Arche, ça prend en charge des handicapés, c'est dans 154 communautés, mm-hmm. 38 pays, donc c'est très très grand, très puissant, et c'est vraiment une figure emblématique, et visiblement il y a une enquête qui montre qu'il y aurait eu des abus sexuels, donc c'est un peu un coup de tonnerre dans cet univers. Est-ce que vous avez des précisions ?
D'abord, une grande tristesse, hein, bien sûr, comme toutes les personnes qui sont proches de l'Arche, dire que c'est une grande déception, c'est aussi une condamnation, bien sûr, hein, de ces actes. Pour autant, dire que cet acte personnel ne doit pas entacher justement toute l'activité de l'Arche. Je salue aussi leur courage d'avoir fait cette enquête en toute transparence, en devançant même les demandes. Et je soutiens cette communauté qui fait un travail extraordinaire auprès des personnes handicapées.
Très utile.
Très utile dans tous les domaines, d'accompagnement à l'habitat, d'accompagnement à une vie sociale.
Et vous avez confirmation, il y a 6 cas, est-ce qu'il y en a d'autres ?
L'enquête suit son cours, hein. L'Arche a publié déjà ses premiers résultats. Ils poursuivent encore une fois, en toute transparence, et je pense que c'était important pour justement crédibilité de l'Arche ne soit pas entachée et que cette communauté soit accompagnée dans ce grand désarroi que représente cette annonce et cette découverte.
Mais Sophie Cluzel, parce qu'on sait qu'il y a des histoires un peu ici ou là, mais là, il y a un mouvement qui est beaucoup plus fort, qui pousse. Est-ce que vous redoutez qu'une fois qu'on commence à soulever le voile, justement, dans des établissements qui s'occupent d'handicapés, il y ait des histoires comme ça?
Alors là, je voudrais dire que c'est pas du tout sur le handicap. Hein.
Oui.
Attention. Nous ne confondons pas tout. Justement, Jean Vanier, ce n'est pas sur des personnes en situation de handicap. Je pense que c'était important de le préciser. Mais bien sûr, partout, en fait, nous essayons d'avoir la parole des personnes.
Mais il y a des fragilités.
Mais bien sûr, les personnes handicapées sont souvent, justement, très vulnérables à ces atteintes. Il faut être vigilant partout. À domicile, parce que c'est là où il y a le plus d'agressions sexuelles, mais aussi dans les établissements. C'est notre devoir de pouvoir libérer cette parole et l'accompagner, bien sûr.
Et puis, cette histoire, je trouve un mot incroyable, et c'est là où, quelque part, vous faites un métier très dur, Sophie Cluzel, parce qu'on sait que vous vous battez, puis vous êtes arrivée à quelque chose avec cette Convention nationale du handicap, avec Emmanuel Macron qui s'est mobilisé, etc. etc. Là, il y a cette histoire de cette jeune tétraplégique de 21 ans qui a passé son bac avec une mention très bien, qui est à Sciences Po Grenoble, et puis donc elle a évidemment un auxiliaire de vie parce qu'elle peut rien faire. Et là, maintenant, depuis qu'elle est à Sciences Po, à l'université, il n'y a plus d'auxiliaire de vie. Donc il y a une collecte qui s'est faite, il y a tout un mouvement autour d'elle. Mais si vous voulez trouver des jobs pour des handicapés, il faut bien qu'ils aient des formations.
Exactement.
Donc ils ne peuvent pas aller à l'université.
Mais bien sûr que si, qu'ils
peuvent
aller à l'université.
On dit que le ministre de l'université, ils leur ont dit qu'il n'y a pas d'auxiliaire de vie à l'université.
C'est exactement ce que je veux combattre. C'est ces ruptures de parcours. Quand vous êtes dans un environnement scolaire, vous passez à l'université, paf, il faut refaire tous les dossiers, etc. Donc Chloé, je connais bien son sujet.
Ouais.
Cette jeune
Chloé.
Enfin, bien sûr que c'est incroyable.
Heureusement qu'il y a le Parisien qui sort l'affaire. Ouais.
Alors, il y avait déjà... Tout le monde était déjà mobilisé. Hein. Après, oui, à l'université, on peut avoir des tuteurs, des preneurs de notes. Et Chloé est très dépendante dans ses gestes de la vie quotidienne et elle peut continuer à avoir une auxiliaire de vie pour elle, pour ses gestes de dépendance. Le tout, c'est que ça n'a pas été assez bien articulé et que la pauvre, elle a fait son errance de parcours comme encore beaucoup trop de familles d'enfants handicapés.
Ça fait déjà un an, vous étiez venue nous expliquer, Sophie Cluzel. Non mais c'est dingue, c'est là, on est dans l'état profond, non ? Je veux dire, une espèce de résistance.
Mais c'est pour ça que, si vous voulez, moi je suis à la tâche tous les jours pour que ça change au quotidien pour les personnes en situation de handicap. Si, ça marche. On ne peut pas dire que ça marche
pas.
Et là,
vous avez trouvé une solution ?
Mais bien sûr qu'on a des solutions, on y travaille justement. C'est très complexe, parce qu'en fait, elle est dans un foyer.
Mais c'est fou que ça soit complexe.
Mais bien
complexe,
sûr
quoi.
Que c'est complexe. C'est tout.
C'est
la
fou,
vie
quoi,
des personnes handicapées.
Elle a besoin d'auxiliaire de vie. Et ben voilà, elle est sur un auxiliaire de vie, non ?
Exactement, mais pour l'instant, c'est des problèmes de financement. Et il ne devrait pas y en avoir pour Chloé. Ça devrait être transparent. C'est tout mon enjeu de pouvoir justement que ça soit ce que j'appelle le back-office. Ce n'est pas aux personnes handicapées de prendre cette charge morale et mentale. Donc Chloé, elle devrait être accompagnée et elle va être accompagnée sans aucun frais à débourser pour elle.
Ouais, une solution ? Parce que là, il y a urgence.
Oui, tout le monde est mobilisé, hein, donc je pense que
Mais il y a Bercy, quoi, le problème, il y a Bercy.
Non, c'est pas Bercy, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de là où doit aller l'argent. L'argent, pour l'instant, il va dans une structure, on veut qu'elle aille à Chloé pour qu'elle puisse ne pas être assignée à résidence, qu'elle puisse circuler, et c'est ce qu'on est en train de changer. Et c'est tout l'enjeu et l'engagement du président de la République lors de la Conférence nationale du handicap que vous avez rappelé le 11 février dernier. C'est stop à ce parcours administratif insupportable.
C'est quotidien, je veux dire, il y a des grandes théories et puis voilà, il y a
Au quotidien pratique. Ça change. Je voudrais rappeler les droits à vie, hein, qui changent vraiment. L'allocation adulte handicapé, c'est à vie maintenant. Plus besoin tous les 3 ans de reprouver son état de handicap. Et ça, c'est en cours d'être vraiment à améliorer. mais pas partout en France, vous avez raison. Ouais. Il y a encore une inéquité territoriale, et ça, c'est mon job. Je vais sur le terrain et je m'assure que toutes les réformes que l'on fait, elles soient en exécution. Ça va être vraiment le mode acte 2 du quinquennat, ça va être l'exécution de toutes ces réformes. Il faut qu'on soit sur le terrain pour que ça change.
Ah bah oui, ça c'est sûr, parce qu'il ne suffit pas de faire des réformes, encore faut-il qu'elles s'appliquent. Hein, ouais. Et dans la réalité, parce que là, c'est l'exemple concret, c'est-à-dire vous battez pour que les handicapés, on a des taux de chômage les plus élevés, je crois.
Deux fois plus que les personnes non handicapées.
Donc, c'est quand même très en retard en France. Ben là, il y a une formation, une fille brillante, et elle n'arrive même pas à finir ses études.
Mais on va l'accompagner, Chloé, et je m'y engage. Voilà. Ouais.
Duodet,
14 mai,
lancement, là, la campagne est là, c'est pour ça que vous êtes là,
exactement.
Vous la lancez là maintenant, c'est de mobiliser les entreprises, c'est, on va peut-être rappeler rapidement ce que c'est.
Le DOD, c'est une journée, le 14 mai, c'est une journée même européenne et même internationale maintenant,
parce que
nos amis canadiens nous copient aussi. C'est une possibilité d'ouvrir la porte de l'entreprise, c'est une possibilité de découvrir un nouveau métier pour une personne en situation de handicap, c'est une possibilité pour un collectif de travail de s'acculturer à la différence quand des collaborateurs en situation de handicap viennent passer une journée avec vous leur faites découvrir, et on voudrait que ça aille plus loin. C'est juste le tremplin, l'ouverture de l'entreprise pour qu'après ça débouche sur des stages, des CDD, des CDI. C'est déjà le cas. Hein, c'est déjà le cas. L'année dernière, nous avons eu sur les plus de 23 000 duos qui se sont créés. Hein, donc nous avions 6 800 employeurs mobilisés. Et rien ne peut se faire sans les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, hein, parce que le public aussi participe énormément au DOD. Donc c'est un très beau levier.
Le double, voire le triple en 2018. Donc là, vous espérez le triple.
On double à chaque fois. Je pense que c'est très important. C'est une façon, si vous voulez, de mettre cette politique handicap au cœur des collaborateurs. Les collaborateurs s'investissent. Les collaborateurs, après, changent de regard. Ça fait tomber les préjugés. Et surtout, ça permet...
Mais les Français sont assez réticents à ça. C'est ça qui est incroyable.
Non, je pense que ça change beaucoup.
Les mentalités changent.
Oui, vous avez qu'à voir le manifeste inclusion que 110 entreprises avaient signé. Oui. On est à 140 maintenant, avec des engagements très concrets qu'on va suivre. On voit bien que cette mobilisation, elle doit venir de la part des entreprises. Réaliser que, d'abord, ils ont un quota, 6%, je rappelle.
Oui, mais il y en a plein. Vous savez, comme les femmes en politique, on préfère payer l'amende plutôt que d'avoir...
Non, ça avance,
c'est compliqué,
progresse.
Parce que justement, il faut un auxiliaire,
non,
il faut une aide.
Mais non, il y a beaucoup de types de handicap qui n'ont pas besoin d'accompagnement.
Oui, bien sûr.
Vous avez tellement de situations de handicap différentes, des handicaps sensoriels, des handicaps moteurs, des handicaps psychiques, mentaux. Tout le monde n'a pas besoin d'accompagnement. Mais ceux qui ont besoin d'être accompagnés, il faut qu'ils le soient vraiment. Et c'est tout l'enjeu de l'emploi accompagné aussi qu'on développe. Et ce DUOD, il permet justement de comprendre certaines situations de handicap auxquelles on ne pensait pas. Notamment les handicaps invisibles. 80% des handicaps sont invisibles. Donc ça aussi, c'est une façon de mieux comprendre ce que veut dire une personne en situation de handicap et comment on peut l'accompagner. Et là où il faut qu'on soit bon, nous l'État, c'est de pouvoir répondre tout de suite aux entreprises. Voilà les adaptations que vous pouvez faire. Voilà les services d'emploi accompagnés que vous pouvez utiliser. C'est ça que les entreprises me disent. Et puis les entreprises, elles me disent une deuxième chose. Moi, je voudrais bien, mais je ne trouve pas les personnes. Eh bien, le DUOD, c'est justement un levier, un tremplin pour sourcer. Parce que près de 80% des personnes qui participent au DUOD, elles sont en recherche d'emploi. Donc c'est aussi une façon de faire du sourcing positif pour les entreprises.
Et est-ce que vous avez sur les 13 000 cas de DUOD en 2019, il y en a combien qui ont débouché sur un emploi ?
Alors, on n'a pas ce chiffre-là l'année dernière, je vais les avoir cette année. Justement, on s'améliore sur la plateforme duod.fr. Vous, entreprise, vous déposez vos offres de stage de cette journée. Les salariés, futurs salariés, collaborateurs ou même ceux duotistes, comme ils se disent, vont postuler, ils peuvent déposer leur CV, etc. Ça va être une vraie banque de sourcing possible pour les entreprises. Et ce que l'on veut, c'est que quand on voit... Je vais vous donner juste un chiffre, l'emploi accompagné, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin, justement, peut-être d'une tierce personne, pas tout le temps, mais pour le handicap psychique ou le handicap mental. Eh bien, 50% d'entre elles, quand elles sont accompagnées, ça débouche sur de l'emploi durable. Pareil pour l'apprentissage. 70% débouche sur l'apprentissage. Donc, il faut oser l'emploi en ouvrant la porte de l'entreprise et montrer que cette façon de travailler ensemble, c'est possible.
Et c'est le message que vous êtes venu
14 mai.
Porter. Ici, 14 mai, mais il faut prendre déjà maintenant,
inscrivez-vous sur la plateforme duod.fr.
Voilà. Merci beaucoup, Sophie Cluzel, d'être venue ici, donc secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Mais tiens, dans un instant, c'est un grand patron, vous allez pouvoir lui dire de s'engager. Je suis sûre qu'il le fera. C'est Jacques Achonbroy, le patron de Valeo, donc des usines partout.
Il s'engage déjà.
Et ben voilà. Et puis avec lui, bien sûr, on reviendra sur ses résultats, mais surtout l'impact du coronavirus. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Jacques Aschenbroix, le président de Valeo. Bonjour, merci d'être avec nous, parce que l'exercice est compliqué, on va dire. Vous avez publié vos résultats pour 2019, le tout dans un contexte quand même extrêmement difficile, avec un secteur automobile qui a baissé de 6% en 2019, avec une grève General Motors, avec une transformation incroyable de votre métier vers l'électrique, vers le zéro carbone. Et puis en plus, là, ce qui arrive, évidemment, c'est l'épidémie du coronavirus, sachant que vous êtes très présent en Chine. Vous avez deux usines en Chine ?
On a 34 usines.
34 usines, pardon. Vous avez deux sites, je veux dire. Oui. Quel impact vous voyez que ça peut avoir pour vous ? On va commencer, évidemment, parce qu'on voit le coup de tabac sur les marchés. Votre titre, évidemment, plonge, forcément, parce que vous êtes très présent en Chine. Quel impact ça peut avoir sur Valeo ?
Alors, on n'a pas voulu mesurer l'impact. Ce qui est très important pour nous, on a 20 000 personnes en Chine.
Oui.
On a 2 000 personnes dans cette province de Hubei. Ce qui est très, extrêmement important, c'est de protéger notre collaborateur, c'est-à-dire que prendre aucun risque qui puisse les mettre en danger au moment où il faut absolument recommencer à produire. Alors depuis le 10 février, donc il y a une dizaine de jours, on a le droit de redémarrer un certain nombre d'usines. On a redémarré toutes nos usines qui sont en dehors de la ville de Wuhan. On les a toutes redémarrées. Il était très important pour nous de les redémarrer pour deux raisons. La première, c'est de savoir que le personnel pouvait venir. Vous savez qu'il y a des restrictions extrêmement fortes pour que le personnel se déplace dans le pays. On a pratiquement accès à l'intégralité de notre personnel maintenant. Et il était surtout important de savoir ce que notre réseau de fournisseurs était capable de faire. Et tous nos fournisseurs maintenant sont revenus au travail, sauf ceux, bien sûr, qui sont autour de Wuhan. Donc, on a repris l'activité. On a repris l'activité à un niveau réduit.
Oui, mais à quel rythme, voilà ?
Non, au rythme très faible pour l'instant.
C'est quoi ? C'est 10%
c'est c'est beaucoup plus que ça. D'accord, c'est de l'ordre de 30-40%. Mais l'important, ce n'est pas celui-là.
Et il y a encore deux sites fermés, voilà.
Et on a encore deux sites fermés. Mais ce qu'on a réussi à ouvrir représente à peu près 90% de notre chiffre d'affaires en Chine. Mais l'important était surtout de savoir ce qu'on pouvait faire. Ouais. Le marché est pratiquement arrêté en Chine pour l'instant. Mais l'important, c'est de redémarrer. Encore une fois, pour être sûr que notre personnel soit disponible et pour être sûr que notre réseau de fournisseurs, on a plus de 400 fournisseurs en Chine, soit capable de nous fournir.
Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, les 400 fournisseurs peuvent vous fournir.
Sauf ceux qui sont auprès de Wuhan.
Oui, mais Wuhan, c'est vraiment là où se concentre l'industrie automobile, là où toutes les grandes usines, notamment des Européens, donc c'est vraiment là où ça se concentre.
Oui. Et non. Le nombre de fournisseurs qui, pour nous, sont fermés aujourd'hui chez Wuhan, à Wuhan, c'est de l'ordre de 14. Donc, c'est pas tant que ça. Cela étant, dans un produit, il suffit qu'il manque un boulon pour que le produit soit inutilisable. D'où le fait qu'il fallait absolument redémarrer, absolument comprendre l'ensemble de la conséquence pour nos productions. Maintenant, au fur et à mesure que le marché chinois va redémarrer, et le marché en dehors de Chine, impacté ou non par ce qui se passe en Chine, on voit exactement l'impact sur notre base fournisseur.
Et alors, l'impact sur votre base fournisseur, je veux dire précisément
aujourd'hui,
elle est sous contrôle. Est-ce que vous arrivez
à sortir vos pièces ?
Elle est sous contrôle.
Mais sous contrôle, ça veut dire qu'elle est disponible, qu'elle produit, qu'elle alimente nos usines. On trouve des moyens de transport. Vous savez qu'il y a une partie très importante de la capacité de transport en Chine qui a disparu pendant ces quelques semaines de coronavirus. Donc tout ça est en train de se remettre en place et on est en ordre de bataille pour recommencer à produire et d'alimenter à la fois le marché chinois. On livre 95% de nos fournitures sur le marché chinois, 5% en dehors de Chine. Mais on s'alimente aussi, on a des fournisseurs basés en Chine qui alimentent nos usines en dehors de Chine. Et tout ça est en train progressivement de se remettre en place.
Oui, mais l'impact, en fait, on s'en rend compte, c'est drôle. Il faut dire que lorsqu'on voit la courbe de l'épidémie du coronavirus, c'est-à-dire elle est totalement exponentielle, même par rapport au SRAS. Enfin, c'est assez sidérant. Hein. Je vous conseille de le regarder. Enfin, ça fait un petit peu peur en même temps quand on la regarde. L'impact que ça va avoir. Énorme,
alors c'est une courbe que je regarde évidemment tous les jours, que nos équipes regardent tous les jours. En fait, il y a deux Chines aujourd'hui. Le nombre de nouveaux cas en dehors de cette province de Hubei, c'est quelques unités ces derniers jours. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'en dehors de la province de Hubei, les choses sont sous contrôle. Et aujourd'hui, même dans la province de Hubei, le nombre de personnes guéries devient supérieur au nombre de personnes nouvelles malades. Donc on voit qu'il y a deux Chines, en fait. Celle de la province de Hubei, d'où est venue l'épidémie, et en dehors de la province de Hubei. Et le nombre de personnes nouvelles infectées chaque jour est proche de zéro maintenant en dehors du Hubei. Donc on voit qu'il y a un contrôle
ça,
des autorités.
Ça, c'est officiel, non?
Oui, mais ce sont les sites dont on dispose. On voit aussi le dilemme, le fait que vous dites sur les chiffres officiels. Bien sûr, ce sont les chiffres officiels. Mais on voit le dilemme des autorités chinoises. Ouais. Comment faire en sorte que la Chine redémarre son activité économique sans qu'il y ait une nouvelle accélération du nombre de malades? Et pour l'instant, on a l'impression qu'ils arrivent à trouver le bon équilibre. Encore une fois, en dehors de la province de Hubei, pour lesquels, aujourd'hui, on nous indique qu'on ne pourra pas redémarrer nos usines avant le 11 mars. Donc ça fera un mois et demi que l'ensemble des personnes et l'ensemble de l'industrie dans cette province de Hubei aura été fermée.
Pour vous, alors vous dites, moi je ne vais pas mesurer l'impact sur Valeo, etc. On peut comprendre, en même temps, on voit bien, en vous écoutant et en regardant, l'impact va quand même être énorme pour l'industrie automobile, notamment européenne, mais l'impact va être très fort.
Alors, sur l'Europe et sur en dehors de Chine, pas pour l'instant.
Non, mais les constructeurs, parce qu'ils sont très, ils sont tous très très présents en Chine. C'est pour ça que je dis ça.
Oui, bien sûr. Alors on aura un impact financier. Mais maintenant, je vais vous poser une question volontairement. Personne n'a la réponse. Est-ce que dans les mois qui viennent, il y aura une compensation? C'est-à-dire ce qu'on a perdu comme volume, est-ce qu'il sera corrigé dans les mois qui viennent ou pas? Vous n'avez pas la réponse, je n'ai pas la réponse. Quand les personnes seront libres de circuler à nouveau, est-ce qu'elles vont aller acheter un foulard ou une voiture? Je ne sais pas. Ouais. Est-ce que le fait que la supply chain, la chaîne fournisseur qui alimente ce qui se passe en dehors de Chine aura un impact négatif sur la production en Europe ou aux États-Unis? Pour l'instant, la réponse est non. Mais les produits arrivent encore parce qu'ils ont été mis sur bateau il y a quelques semaines. Il n'y a aucun bateau qui est alimenté aujourd'hui. Donc, il peut y avoir des ruptures. Cela étant, quand il y a eu Fukushima, il y a quelques années...
Six semaines, un mois et demi. D'accord.
Mais quand il y a eu Fukushima, par exemple, l'impact a été extrêmement limité. On s'aperçoit qu'il y a une énorme résilience de l'ensemble de la supply chain. Comparaison n'est jamais raison. Donc, on ne sait pas parce que ça s'est bien passé dans le passé.
C'est le Japon, très important dans tout ce qui est tech, mais par exemple, pour l'industrie, la Chine, c'est non seulement c'est l'atelier du monde, mais en plus, c'est un énorme marché. Donc, vous voyez, pour vous, il y a les deux, quoi, deux composantes.
Absolument, il y a les deux composantes. Pour l'instant, celle qui est des composantes qui est perturbée, c'est le marché local, qui est arrêté depuis plusieurs semaines. Et encore une fois, on ne sait pas s'il y aura une compensation. Et de veiller, et nous, on fait un énorme travail aujourd'hui pour veiller à ce que l'ensemble de nos clients en dehors de Chine soient fournis, soit par nos fournisseurs, soit par nous-mêmes. Et pour l'instant, on arrive plutôt bien à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement de nos clients. Il faut simplement que ça dure dans les semaines qui viennent. Et c'est le travail, d'où l'importance de redémarrer nos usines, c'est le travail que nos équipes qui font un travail incroyable. Nos équipes chinoises font un travail incroyable.
Vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Enfin, je veux dire, eux sont là-bas, oui. Donc, donc ils sont aussi un peu seuls dans leur coin. Quoi.
Ils sont très autonomes. Ils sont fabuleux. Ce qu'ils ont réussi à faire, alors peut-être que certains d'autres acteurs diraient la même chose, mais nos équipes sont extraordinaires. Elles ont réussi à redémarrer les usines, à négocier avec les autorités locales, à protéger les collaborateurs dans une période où, comme vous le dites, ils sont tout seuls, mais surtout, ils étaient eux-mêmes avec leurs propres problèmes, leurs propres difficultés, leurs propres angoisses.
Oui, angoisse et familiale, notamment, évidemment. Oui. On le disait, donc vous avez cette épidémie, enfin l'impact incroyable. Est-ce qu'on rentre dans une phase de démondialisation? Est-ce que vous, patron d'un grand groupe, vous vous dites, il faut quand même que je revoie ma stratégie, c'est-à-dire que c'est formidable la mondialisation, mais on voit bien qu'on est très dépendant d'une épidémie. Est-ce que
la réponse
il y a une petite lumière qui s'allume là dans votre tête?
Elle s'est allumée depuis quelque temps déjà. C'est pas ce phénomène-là qui nous fait nous interroger. Pour rappeler des chiffres, on produit 8 millions de pièces par jour et on a 2 milliards de composants qui rentrent dans nos usines tous les jours. Ce sont des chiffres très élevés et montrent bien la complexité de cette
logistique, supply chain,
etc. C'est une complexité inouïe. Et c'est vrai qu'on l'a globalisé au cours de ces 10-15 dernières années et que la question qui se pose dans les relations un peu difficiles qu'il y a entre l'Amérique du Nord et la Chine, est-ce qu'il faut aller vers
l'Europe,
une régionalisation nouvelle de notre base fournisseur et de notre supply chain? La réponse est oui, mais on ne peut pas le faire si les coûts sont supérieurs. C'est-à-dire aucun de nos clients, aucun des consommateurs n'acceptera de payer plus cher. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui nous permettent d'avoir finalement le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire quelque chose de plus régional, donc de moins risqué, entre guillemets, mais à des coûts qui ne soient pas supérieurs.
Et c'est l'ensemble. Ça peut être supérieur parce que dès lors que le risque est moindre. Donc à ce moment-là, vous pouvez dire, ben voilà, vous voulez quelque chose de moins risqué, ça vous coûte un tout petit peu plus cher. Parce
oui, que mais c'est évidemment... pas comme ça que les consommateurs raisonnent, ni nos clients. C'est-à-dire qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre, et je les comprends. Nous, en tant que consommateurs, on veut quelque chose qui soit plus respectueux de l'environnement, mais on ne va pas payer plus cher. On voit bien ce qui s'est passé il y a quelques temps sur les gilets jaunes, par exemple. Donc il faut avoir en tête de rendre moins risqué notre supply chain, donc avoir plusieurs fournisseurs sur une pièce équivalente, qui soient dans des zones géographiques différentes, mais surtout avec l'obsession de résoudre cette équation qui est très difficile à résoudre, il ne faut pas que ce soit à des coûts supérieurs.
Mmh, d'accord. Vos résultats, vous avez publié, c'est jeudi, donc chiffre d'affaires à peu près stable, ce qui est quand même enfin, 19 milliards de 200 millions, ce qui en soit une performance dans un marché qui baisse de 6%. Vous le voyez baisser de combien en 2020, du reste, le marché automobile?
Ce qu'on a dit la semaine dernière,
non, mais c'est... Vous allez nous dire là,
moins 2, la même chose que la semaine dernière, mais hors impact de coronavirus, pour les mêmes raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, on ne sait pas le mesurer. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'avec un marché qui sera en baisse de 2%, on devrait surperformer ce marché, donc avoir un chiffre d'affaires en croissance et améliorer nos marges et rester avec un cash très important.
Oui, alors ça c'est les côtés positifs, c'est-à-dire marge opérationnelle qui est forte, qui reste forte, et puis avec un cash de trésorerie aussi significatif. Bon, après, il y a si on regarde la dernière ligne, c'est le bénéfice net qui est en chute de 43%.
Oui.
Alors avec des explications.
Mais alors, il y a une explication
toujours,
très forte qui est en fait deux choses. Le marché lui-même était en baisse et donc c'est un impact négatif, mais surtout on a créé une joint venture avec Siemens, Valeo Siemens, pour devenir le leader dans l'électrification
des
moteurs, qui nous coûte cher.
Mais pour
c'était prévu. Non, pas du tout. Absolument pas.
C'était prévu. Moi, je m'en souviens, on en avait parlé ensemble il y a deux ans, je crois. Vous m'aviez dit, mais j'espère bien qu'à la fin de l'année ou l'année prochaine, on va réussir à justement à plus consommer du cash.
On avait dit 2022 et on reste toujours avec 2022. Ouais. Simplement, ça nous a coûté plus cher que ce qu'on avait prévu. C'est vrai. Le développement de ces innovations est plus cher. Il faut l'assumer. Mais on est en train de créer un objet qui a une énorme valeur. Le marché est en train de devenir électrique. Ceux de nos concurrents qui n'auront pas fait cet effort d'aller vers l'électrification
devront le marché va devenir électrique.
Ah oui, tout.
Non, mais quand on interroge
le nombre de villes, le nombre de pays qui disent qu'à partir de 2035, 2040.
Oui, mais Jean-Dominique Sénère, le patron de Renault, il ne croit pas à tout électrique.
D'autres de ses concurrents y croient. Et je pense que ceux
et
qui n'y croient
pas.
Et vous,
vous y croyez?
Ah oui, fortement, fortement.
Tout électrique.
Il y aura une. Oui, tout électrique. Dans un premier temps, dans les 15 prochaines années, il y aura un équilibre entre différentes technologies, entre le moteur. Le diesel est en train de disparaître. Le moteur à essence, boosté avec un boosting électrique.
Ça sera un moteur à hydrogène ?
Le moteur électrique peut être avec une batterie ou peut-être avec de l'hydrogène. Pour nous, ça ne change rien puisqu'il y aura un moteur, il y aura un onduleur, ce qui est le cerveau de la transmission électrique. Mais l'électron, il peut être stocké dans une batterie, ce qu'on fait aujourd'hui, ou il peut être produit dans la voiture avec une pile à combustible et de l'hydrogène. Mmh. L'une et l'autre des technologies, je ne sais pas laquelle gagnera, mais on voit très bien que pour nous, ça ne change rien puisqu'on est en aval de l'électron.
Donc c'est le co-entreprise, vous ne changez rien?
Non. Je n'ai aucun regret de ce qu'on a
fait. D'accord. Et vous assumez les 580 millions, c'est quoi vous
Et on assume le fait que la JV perd de l'argent plus que ce qu'on aurait imaginé. Donc il faut tout faire pour reprendre le contrôle. Mais les produits qu'on a développés
sont de... Donc vous maintenez en 2022 équilibre?
Équilibre en cash pour la JV.
Ok, en cash, d'accord. Et est-ce que au total, ça vous aura coûté combien?
Ça nous aura coûté...
1 milliard?
Oui, à peu près. Notre part, oui.
Votre part,
oui. Oui, c'est ordre de grandeur.
Oui.
Mais donc...
Vous rentabilisez l'investissement?
Oui, mais si on arrive à le faire, on aura réussi à équilibrer en cash une société qui est partie de zéro pour aller vers 2 milliards de chiffre d'affaires en 5 ans. Mmh. C'est mieux que beaucoup de gens n'ont réussi à faire. Donc c'est un énorme travail. Nos équipes, là aussi, font un travail assez fantastique. On a une équipe qui est très solide, qui a vraiment la société sous contrôle. Donc je ne regrette pas de l'avoir fait. Et je pense que ça va être un superbe actif pour Valeo dans les années qui viennent.
Marge opérationnelle, je disais qu'elle s'était maintenue pas du tout. En fait, elle a baissé à 4,1%, donc chuté de 27%. Parce que il faut dire que, voilà, il y a eu un élément exceptionnel, c'est la grève chez General Motors.
Non, il y a eu deux choses. Ouais. La grève chez General Motors, qui nous a coûté 50 millions.
Ouais.
Mais on se compare aussi avec le premier semestre 2018, qui était les résultats historiques de Valeo. Donc 2019 intègre un premier et un deuxième semestre. Le premier semestre de 2018, auquel on se compare, était un très très bon semestre. Si on regarde non plus par rapport à l'année précédente, ce qu'il faut faire, et j'assume tout à fait ces chiffres-là, mais le second semestre par rapport au second semestre de l'année dernière, on a une augmentation de 62% de nos résultats. Donc on voit que la baisse du volume nous a coûté cher. On a une rentabilité qui était totalement insuffisante au second semestre de l'année dernière, de 2018, pardon. Et maintenant, étape par étape, on revient à un niveau de rentabilité qui est plus satisfaisant. Et ce qu'on a dit dans une réunion investisseur qu'on a faite en décembre, c'est qu'on devrait retrouver nos marges d'avant cette crise de l'automobile d'ici 2022.
Oui. Et ça, c'est croix de bois, croix de fer, Jacques Aschenbroich, parce qu'on sait que justement, vous a reproché de pas tenir vos prévisions.
J'ai toujours tenu, sauf en 2018.
Justement, oui.
Où on était les premiers à dire qu'il se passait quelque chose. Donc on nous accuse d'avoir fait deux profit warnings, ce qui est vrai. Le premier, c'est parce qu'on a dit, attention, il est en train de se passer quelque chose en Chine et en Europe. Et le deuxième, c'est qu'on avait sous-estimé ce qui est en train de se passer. C'est vrai, mais cela étant, on a toujours tenu nos engagements.
Est-ce que le marché automobile, on l'a vu, donc il baisse, il se transforme. Est-ce que vous avez l'impression quand même que le gros de la transformation est derrière vous ? Vous êtes équipementier, Valeo, bien sûr. Donc, vous êtes la voiture de demain. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'on est en train de surmonter cette transformation majeure ?
Alors, ce qui nous concerne, la réponse est oui. C'est-à-dire que l'ensemble des dépenses qu'on a dû faire pour se préparer à ces changements, on les a faites dans les années 2016, 17, 18, 19. C'est derrière nous. Et on a développé ces plateformes technologiques qui va maintenant pouvoir exploiter en réduisant nos dépenses de R&D, parce qu'on a fait cet effort, on a énormément augmenté nos efforts de R&D, et on a aussi augmenté nos investissements. Donc, on peut dire que l'essentiel de l'effort qu'on devait faire pour s'adapter aux nouvelles donnes du marché automobile, elles sont derrière nous. Donc maintenant, il faut simplement montrer que c'est vrai, et montrer qu'on arrive à réduire nos coûts, réduire nos investissements, réduire nos dépenses de R&D, et donc augmenter nos marges.
Réduire vos coûts, ça veut dire ça quoi ? Ça passe par des suppressions d'effectifs ? Ça passe par
quoi ? Oui, mais ça, on l'a toujours fait, et vous ne l'avez jamais entendu parler. C'est-à-dire que nos sites doivent s'adapter aux évolutions de technologie, doivent s'adapter aux circonstances. On n'a pas fermé de site en Europe de l'Ouest pendant la crise de 2008-2009. J'espère bien que dans cette crise, on arrivera à passer sans fermer d'usine.
Ouais.
Par contre, il faudra continuer d'adapter l'ensemble de nos sites aux circonstances du marché. Quand le marché baisse de 6%, quand le marché baisse de 11%, comme on l'a eu cette baisse entre l'été 2018 et la fin 2019, il faut bien s'adapter.
Le grand enjeu pour vous, là, en 2020, pour Valeo, ça va être quoi ? Parce que vous êtes très investi aussi, on l'a vu en termes d'innovation, technologie, vous étiez une des stars du salon de Las Vegas, du CES. Je ne sais pas, est-ce qu'on vous y retrouvera l'année prochaine ? Maintenant, on voit bien que la voiture autonome, tout ça, c'est un petit peu en retrait.
Alors, ce n'est pas en retrait.
Qu'il y a beaucoup qui disent voiture autonome, c'est la fin de la voiture autonome, du moins pour l'instant. Non. Le consommateur n'est pas prêt.
On sera à Las Vegas l'année prochaine, qui est devenu pour nous un salon extrêmement important où on présente nos innovations. Donc, oui, on y sera. La voiture autonome, il y a plusieurs marchés des voitures autonomes. Les robots taxis commencent à exister. Il y a aujourd'hui des expériences de robots taxis aux États-Unis par Waymo, qui est une filiale de Google, sans chauffeur. Et on peut commander une voiture, un robot taxi.
Oui, mais on n'est pas tous sur la même échelle que ce à quoi on s'attend. Vous vous attendiez.
On est sur cette partie-là du marché en ligne avec ce à quoi on s'attendait. Le marché, je vous ai toujours dit que le marché pour vous et moi pourrions acheter une voiture autonome, c'était 5-10 ans. Ça reste 5-10 ans, c'est-à-dire que le temps passe et on reste toujours à 5 ou 10 ans.
Oui, enfin 5-10 ans, maintenant ça fait dans 3 ans. Moi,
j'ai dit toujours 5-10 ans. Donc, donc je pense que le marché où nous, en tant que consommateurs, conducteurs, on pourra remplacer notre propre voiture par une voiture autonome, ça prendra beaucoup plus de temps que ce qu'on a prévu. Par contre, le marché des robots taxis, ou un autre marché qu'on est en train de découvrir, qui est la livraison du dernier kilomètre par des objets, on peut les appeler droïdes, ou qui seraient électriques et autonomes, c'est un marché qui est en train de commencer. On a des coopérations avec une société chinoise qui s'appelle Mituan, et une autre société américaine qui s'appelle Nuro. Donc on voit qu'il y a plusieurs segments de marché qui sont de transport de personnes ou transport de marchandises, qui sont en train d'être au début de cette aventure. Mmh. Alors, pour nous, c'est énormément de R&D qui est payé par nos clients à ce stade, et des des avances technologiques qu'on est en train de développer avec eux, qui sont assez spectaculaires. On les connaît tous, ces acteurs. Les progrès qui sont faits, année après année, sont très spectaculaires.
Est-ce que vous êtes inquiet sur un de vos clients qui s'appelle Renault ?
Non.
Non ?
Non, l'alliance... Alors, je suis inquiet dans la mesure où il y a du temps qui a été perdu, et le temps perdu dans l'industrie est très difficile à rattraper. Mais je crois que... D'abord, Jean-Demi Sénard fait un travail extraordinaire.
Mais de quoi ?
De rassembler les deux éléments de l'alliance.
Mais de recoudre de l'alliance. Et non, mais quand je disais de quoi, c'était un peu par provocation, parce qu'on se pose la question en disant, est-ce que, parce qu'il change de pied, est-ce que finalement Carlos Ghosn, qui était quand même vu comme un visionnaire de l'industrie automobile, mais a fait une course au volume pour devenir numéro un mondial, donc c'est très bon pour vous l'équipementier, pour Valeo, mais en même temps, on est en train de se demander si finalement sa stratégie, elle n'était pas un petit peu suicidaire à terme.
Je ne sais pas commenter cet aspect des choses.
Bah mais c'est derrière, vous avez vécu ça.
Oui, mais on a d'autres clients qui ont continué de croître. On monte de plus en plus avec Toyota. On est très présent avec Volkswagen.
Donc la course au volume n'était pas une erreur. Non, mais c'est intéressant.
C'est un métier de volume. Ce qui est très difficile, et on a le même sujet, c'est quel est le bon équilibre entre la croissance et la rentabilité. Peut-être qu'il y a eu chez tel ou tel... plus d'accent sur la croissance que sur la rentabilité. Mais notre souci premier, c'est de trouver le bon équilibre. On a eu des problèmes ces 18 derniers mois, parce que le marché nous a finalement joué des tours. Mais il faut absolument qu'on retrouve ce bon équilibre entre la croissance et la rentabilité.
Oui, c'est tout le défi pour 2020, c'est ça ?
Exactement.
Merci beaucoup, Jacques Aschenbroix, d'avoir été avec nous. Donc, le patron, le président de Valeo. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve demain à l'interview de la matinale. Je recevrai Laurence Boone, la chef économiste, la grande gourou de l'OCDE. Intéressant de voir l'impact que ça peut avoir justement ce coronavirus sur nos économies. Elle revient du G20 et puis elle a rencontré Christine Lagarde. Et puis ensuite, bien sûr, rendez-vous dans l'orage, 12h-13h. Bonne journée.